Sont-ils des geeks?
Sont-ils fanboys?
Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés,
animée par Teddy et Fabien. Autre pastille aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on enregistre beaucoup de choses là en ce moment. On va parler d'un film qui a fêté ses 20 ans l'année dernière.
Et dont il parle de faire un numéro 4.
En plus, on va en parler ça à la fin du podcast, parce que on doute un petit peu de la légitimité, on va dire, de cet épisode. Mais on va parler donc de Matrix, film culte s'il en est, Teddy.
Ah, culte, hein. Oh, ouais. Je veux dire, c'est un film qui est carrément comme Star Wars, hein, rentré dans la pop culture. Mmh. Qu'on va supposer que vous avez tous vu parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est sorti.
Ouais.
Et puis avec des références qui sont restées, même dans les mouvements de travelling de caméra, mmh. dans les façons de voir les choses, dans les scènes d'action.
Bon, voilà. on va parler des différentes techniques qui sont un petit peu employées. Avant, je vais faire un petit trivia si tu permets, avec en disant que le projet Matrix donc date de 1999. Au casting, on retrouve Keanu Reeves. Alors Keanu Reeves, qui était à l'époque une star du film d'action, notamment avec Point Break, Extreme Limit ou Speed. Donc lui, il a accepté, mais ça n'a pas été le premier choix des producteurs. En fait, il voulait Will Smith.
Ouais, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Keanu Reeves, comme tu dis, film d'action, mais pas avec de la bagarre. C'était un film d'action, ouais, tu prends Speed ou Point Break, il se battait pas. C'était plus un film d'action, mais où c'est pas le héros qui se bat contre tout le monde.
Il y a un côté polar, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Plus recherche, travail,
d'enquête. C'était quand même spectaculaire, hein, ce qu'il faisait Keanu Reeves, parce que c'est quand même un acteur qui est très physique et qui assure quand même pas la plupart du temps ses cascades, un peu comme les derniers John Wick, quoi.
Ouais, bah voilà, quand tu regardes un John Wick ou un Point Break, t'as un grand écart au niveau... au niveau de ce qu'il fait dans le film, quoi.
Ouais, c'est pas non plus le gros costaud, hein.
Ouais, c'est pas
un acteur physique. C'est un peu comme Tom Cruise, quoi. Je veux dire, il est physique, il n'a pas besoin de doublure pour certaines de ses scènes d'action.
Ouais, il est physique sans être massif. Pas comme un Stallone ou un Spielberg, qu'est-ce que je raconte? Un Schwarzenegger ou des trucs comme ça.
Schwarzenegger, Stallone, Sly.
Bah, eux, tu vois, ils sont massifs. Ouais. Dwayne Johnson,
est-ce que tu trouves qu'il y a un peu plus dans le style Bruce Willis
Bah Bruce Willis, tu vois, il est devenu un peu plus massif avec le temps, mais quand tu regardes dans Die Hard, il était pas massif.
Non, il était pas costaud, quoi.
Ouais, là, il est plus film d'action, mais d'action en j'aime battre et pas d'action, je suis super costaud.
Ouais, mais dans ce film, il y a toujours de la tension. Moi, j'avais adoré Speed et j'adore toujours ce film. Par contre, le 2 est mauvais, mais il n'y est pas dedans. Et puis, il y a aussi ce que je dis aussi, Point Break, il y a ce côté aussi très physique où il fait du surf, où il est comme concurrent en face à Patrick Swayze, par exemple. Et il y a d'autres films où il a prouvé qu'il pouvait aussi être un acteur qui est aussi à l'aise dans l'action que dans le film intime, où il fait des rôles un peu plus romantiques, parfois. Mais pourquoi il a été choisi, c'est parce que certainement pour ses aptitudes physiques et aussi parce que ça collait plus au personnage de Neo. Et il faut rappeler que, bon, comme je disais tout à l'heure, c'était Will Smith qui avait été choisi. Donc Will Smith n'aurait pas été pareil, mais lui, il a quand même reconnu qu'il était pas prêt pour le rôle, qu'il n'était pas assez mature pour incarner Neo. Parce qu'il était quand même dans une phase où il triomphait avec les films les Men in Black.
Avec plus de légèreté.
Ouais, beaucoup de comédie, quoi, voilà. Dans ses films. Et là, après, il a enchaîné avec Wild Wild West, qui était quand même très léger aussi, faut le dire.
Ouais, il y a plus de l'humour dans les films à Will Smith. Tu t'attends, je dirais pas comme à la Eddie Murphy, faut pas déconner, mais tu t'attends à ce que ils se prennent pas trop au sérieux. Tandis que dans Matrix, Neo, c'est quelqu'un d'hyper sérieux.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, Keanu Reeves, qui était en compétition après avec pas mal d'acteurs, mais celui qui avait été retenu aussi, c'était Johnny Depp. Alors, est-ce que ça aurait fait les mêmes effets? Ça, je ne sais pas, mais bon. Depp et...
Tu vois, j'ai du mal à imaginer Johnny Depp en film d'action.
En néo, tu vois. En néo. Ouais.
Après, il faut dire, voilà, Keanu Reeves, il interprète vraiment tellement bien le personnage que n'importe qui d'autre, je vois pas qui pourrait le faire, quoi.
Ouais, c'est un peu le problème de certains acteurs qui s'accaparent complètement le rôle et qui sont rentrés dans le costume, quoi.
Ouais, puis ils sont rentrés dedans, puis du coup, t'arrives pas à te dire, tiens, on pourrait mettre qui à la place, parce que tu te dis, non, c'est du Reeves, ça.
Il y en a beaucoup qui l'ont décrit, hein, Keanu Reeves, en disant que c'est un acteur inexpressif et que il faisait pas beaucoup d'efforts pour rendre. Bah, je trouve que il y a un peu monolithique dans ce film, mais ça colle tellement au personnage de Neo, quoi.
Quand tu regardes le Neo, alors on va parler du premier film du coup, mais quand tu regardes le Neo du premier film, moi je trouve que ça colle bien, parce qu'il a l'air paumé. Mais je suis désolé, dans le Neo, il est paumé dans le premier film, parce que. Il découvre quand même qu'il vit dans le mensonge depuis des années, quoi.
Ouais, c'est ça un peu le postulat de départ, c'est que on a un hacker, Thomas Anderson, qui est contacté par une certaine Trinity, alors qui est jouée par Carrie Ann Moss. Moi, je trouve que c'est un beau personnage féminin, Trinity, hein, dans ce film-là. C'est-à-dire que on n'a pas attendu le Hollywood des années 2010 pour avoir des beaux personnages féminins, quoi.
Ah, puis ce que j'apprécie aussi dans le film, ça va peut-être faire un peu vieux con ce que je dis, on t'a pas non plus coller une pétasse au gros lolo, tu vois.
Ah non, c'est clair qu'elle a un physique un petit peu androgyne, hein, Carrie Ann Moss, quelque part.
Ouais, puis, elle a pas la tête de la gourdasse, quoi.
Il y a du charisme. Donc, ça fait beaucoup aussi. Et donc, elle est contactée, et puis qui lui dit que Morpheus, donc incarné par cet immense acteur qui est Laurence Fishburne. Alors, Laurence Fishburne, on l'a vu dans plein de films, hein. Il y a une filmographie qui est longue comme mon bras, quoi.
Alors, tu vois, Mathéman, si tu dis, il a une filmographie longue comme ton bras, et à part dans Matrix,
tu connais pas?
J'ai du mal à le, tu vas me dire des titres, je vais dire, ah ouais, c'est vrai.
Ouais, mais... peut-être, mais moi, est-ce que tu les as vus, les films? Il y aura Boys in the Wood, par exemple.
Ouais, pas vu.
Il y a Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, par exemple.
Pas vu non plus.
Puis un peu d'horreur, quoi.
Ah si, je l'ai vu, celui-là.
Tu l'as vu?
Ouais, le vaisseau de l'au-delà,
j'ai vu. Donc,
des rares films d'horreur que j'ai vu.
Il faisait flipper, ce film, hein. Franchement, moi, j'aime bien le remater de temps en temps. Mais, Laurence Fishburne, il a fait aussi le rôle de Ike Turner dans la biographie de Tina Turner, par exemple, aussi. Tu l'as pas vu non plus. Bon,
je fais nom de la tête, mais je l'ai pas vu non plus.
Bon, je vais pas non plus sortir toute la filmographie parce que
non,
on a pas
le
temps. Mais allez googler sur. Vas-y.
Il est pas sur NCIS ou un truc dans le genre.
Il a été dans Les Experts.
Les Experts, c'est ça.
Quand même un acteur qui est reconnaissable parce que déjà il a une prestance qui est assez naturelle et à l'origine il paraît que c'était Val Kilmer qui devait l'incarner. Et pour moi ça aurait pas collé quoi.
Ouais, bah tu vois, encore une fois, on sait pas parce qu'on l'a pas vu. Parce que du coup, c'est Laurence Fishburne qui a joué à sa place,
Ouais,
Du coup, t'arrives pas à voir quelqu'un d'autre dans le rôle, tu vois.
Mais moi,
ils ont tous leur rôle et tu vois pas quelqu'un d'autre s'y mettre.
Ouais, moi je vois pas Val Kilmer faire le mentor de Keanu Reeves. Pour moi, ils avaient à peu près le même âge, quoi, tu vois. Même si Val Kilmer est beaucoup plus vieux, ça colle pas, quoi, moi je veux dire.
Et puis, je sais pas, Fishburne, il a une tête de gradé militaire, tu vois.
C'est ça. Il a une figure autoritaire.
Ouais, il a une figure autoritaire, tu vois.
Ouais, c'est ça qui colle un peu plus au personnage.
Et je pense que l'alchimie, elle marche parce que les personnages, en fait.
T'as la Trinité, quoi, on va dire.
Ouais,
ça,
voilà. Puis ils ont la. Ah, je suis désolé, ils ont la gueule de l'emploi, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est limite Batman, Superman et Wonder Woman quand tu les vois, quoi, un petit peu, quelque part, quoi.
Ouais, j'irai pas jusque-là. Hein. Mais c'est vrai que. Ouais, ils sont complémentaires. Même, j'allais dire, Trinity et Neo sont complémentaires. Mais ouais, même avec Morpheus, il faut qu'ils soient là parce que c'est le sage du groupe, en fait.
Ouais. Bah, ils ont chacun leur faculté, leur importance dans le récit quand même. Et donc Thomas Anderson qui rencontre finalement. Avant, il y a cette scène qui est assez traumatisante où il rencontre l'agent Smith, donc qui est joué par Hugo Weaving, qui n'arrête pas de...
Encore un qui a la tête de l'emploi,
ah, mais complètement.
T'as vu la tête de psychopathe quand même.
Non, mais il joue très bien. D'ailleurs, Hugo Weaving, on l'a vu dans Le Seigneur des Anneaux, il faisait un elfe, dans Le Roi des Elfes, il me semble. Il joue aussi dans V for Vendetta, mais là, il porte un masque, donc c'est autre chose. Mais c'est un acteur qu'on voit dans beaucoup de rôles aussi et qui change souvent de visage. Il est intercepté par l'agent Smith qui le colle dans une espèce de salle d'interrogatoire et c'est là que le malaise commence vraiment. C'est quand il demande à parler à son avocat et l'agent Smith lui dit
tu peux même pas parler.
Mais il faudrait que vous réussissiez à parler, Monsieur Anderson. Et là c'est la bouche qui se coule toute seule. On voit qu'elle se colle toute seule. C'est assez cauchemardesque, hein, comme vision.
Et c'est que à ce moment-là tu te dis je pars dans l'ASF.
Ah, il y a un truc.
Jusque là tu te dis.
Il y a un truc qui est bizarre, quoi.
Tu te dis dans quoi je m'en vais. Là tu te dis mais tiens ça va où ce film et là tu te dis
puis après il lui colle une espèce de sonde dans le bide
et puis il se réveille en sursaut.
Il se réveille, il croit qu'il a fait un cauchemar mais on s'en rend compte plus tard que cette sonde elle est bien présente.
Ouais,
il y a cette scène qui est assez rude d'ailleurs où il essaie de la tirer où il veut pas croire à Trinity qu'il veut prendre une autre route, mais il se rend compte qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'impressions de déjà vu en fait dans dans sa vie. Ouais. Ça fait bizarre quoi, lui. Il sait au fond de lui-même que ce monde il est peut-être pas réel, tu vois.
Et bah, il le dit, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Il dit qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis l'autre il lui apporte la vérité, Morpheus. Ouh, il l'a payé cher, la vérité.
Puis déjà, je trouve que l'ambiance, elle s'installe. On est vraiment déjà sous pression, là, tu vois, rien que dans la première demi-heure, tu vois.
Ouais.
Il y a vraiment un truc qui nous prépare à quelque chose de plus...
Puis je sais pas, toute la première demi-heure, tu vois le film, tu vois, il va au bureau, machin, puis il fait les rêves parties, machin.
Ouais.
Et tu te dis, c'est pas... Enfin, il y a un truc qui va pas, c'est pas réel, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? T'as une impression d'irréalité... Je veux dire, toute la première demi-heure, tu te dis, mais c'est pas réel ce monde, c'est quoi? Il y a un truc qui va pas, tu sais. C'est blanc, t'as l'impression que tout le monde y est mort, enfin tu vois, c'est...
Quelque chose de factice,
toi. La rêve partie, ouais. Tu te dis, mais c'est un monde faux. C'est un...
Même dans les scènes de bureau où il doit s'évader par les vitres, je sais pas si tu te souviens.
Ouais, et puis qu'il n'ose pas,
quoi. Finalement, il aurait pu sauter, il n'y aurait aucune conséquence, mais peut-être que si, mais bon. Mais parce qu'il maîtrise pas encore le pouvoir, on va dire. Mais après, il y a cette rencontre avec Morpheus, et c'est là que... On a cette référence à Alice au pays des merveilles quelque part déjà.
Et puis ouais, enfin je veux dire là c'est enfin la série d'effets spéciaux. Moi c'est à partir de ce moment-là ça me met en angoisse.
La scène du miroir
quand
quoi.
Quand il touche le miroir, quand ça rentre dans sa bouche que.
Petite question, c'est la pilule rouge ou la pilule bleue qu'il prend?
Il prend la rouge.
Ah bah oui, moi je confondais tout le temps. Il choisit quand même de voir le monde qui se cache derrière ses yeux. Il
propose la vérité.
Ouais, parce que comme j'allais dire c'est. C'est la question qui nous tourmente tous. Qu'est-ce que la matrice? Et donc Neo, comme le spectateur, il veut savoir ce que c'est.
Ouais, tu vois, c'est marrant parce que Neo, dès le début, il se dit, c'est quoi la matrice? Et on a ce truc qui revient 2-3 fois.
C'est quoi la matrice? C'est quoi la matrice comme question, ouais.
Et t'as jamais vraiment de réponse, quoi. Puis tout d'un coup, quand t'as la réponse, je veux dire, moi, je serais à sa place, je crois que je regretterais de savoir ce que c'est. Je le dis honnêtement.
T'aurais pris la pilule bleue, toi.
Ah, c'est clair.
Donc, il prend cette pilule.
Pas du Viagra.
C'est vrai en plus, ça pourrait être assimilé, ouais. Ah, peut-être qu'il y a une métaphore, mais bon. Il prend cette pilule, puis t'as déjà l'histoire du miroir qu'il aspire. Enfin, qu'il aspire, on a une espèce d'entité, et puis il est complètement... Puis il y a cette scène hyper angoissante où on voit que il étouffe, quoi. Littéralement, il est en train d'étouffer, quoi.
Bah, il est en train de mourir, c'est ça, il faut faire croire à la matrice qui est en train de mourir.
Ouais.
Et c'est plutôt bien réussi, c'est même on y croit, hein.
Et après, il y a pareil, on est précipité dans cette espèce de cocon... je dirais des sarcophages un petit peu.
Ouais.
Avec du liquide. C'est du liquide de. Comment on peut dire ça?
Amniotique.
Un peu visqueux, quoi.
Ouais.
Pour les bébés, quoi. Quand on est dans le bord de la mer, quoi. Ouais. Et puis, il y a cette scène hyper angoissante. C'est vrai que c'est angoissante où on découvre qu'il sort et puis il voit tout ça. Il voit ces cités avec des cocons de par millions. Mais par millions, c'est une immense cité. Et puis, c'est pas encore là qu'on voit la culture, c'est après, je crois. Et puis
c'est
là,
quand il lui explique après qu'on voit la culture.
Mais il y a déjà une première étape vers l'angoisse, je veux dire. Et ensuite, il tombe et il y a un peu déversé comme une espèce de déchet, des déchets, quoi.
Ça fait un peu on tire la chasse, ouais, hein, je suis désolé. Hein, c'est devenu un déchet,
complètement.
On l'évacue, quoi.
Ouais, une fois qu'il est réveillé, il sert plus à rien, quoi.
Ouais.
Une fois qu'il est déconnecté avec tous ces câbles, parce que ça aussi, c'est hyper malaisant. T'as plein de câbles partout sur ton corps.
Le câble dans le crâne, là.
Ouais, c'est horrible. Donc voilà quoi, et puis il finit dans le vaisseau de Morpheus.
Ah ouais, puis il récupère la pince quoi.
Et puis Morpheus, juste avant qu'il s'endort, lui dit bienvenue dans le désert du réel.
Ouais, tu vois, bienvenue dans le monde réel.
Ouais, et donc il se réveille, puis ça lui fait un sacré choc quand même.
Bah ouais.
Il commence à gerber et tout.
Mais tu vois, je veux dire, on dit que l'acteur y est monolique, mais moi je suis désolé, le choc je le vois dans son regard, je le vois dans sa façon de faire.
Ouais, c'est ça.
J'y crois.
Non, il restitue bien le malaise qu'il y a dans le personnage. Et nous aussi, on est aussi pris dans la tourmente quelque part, parce que on a découvert qu'un aspect de la matrice en fait là, pour l'instant. Et c'est là on a la deuxième révélation, c'est que ils ont créé une espèce de monde virtuel aussi dans leur vaisseau. Pour les séquences d'entraînement et
une
tout.
Une salle d'entraînement virtuelle, ouais.
Et il lui explique par le biais de cet espace virtuel, il lui explique que, tout simplement que les humains sont cultivés comme dans le chaud de coton et qu'il y a des immenses machines qui s'en servent pour fournir de l'énergie justement à la machine.
Bah, il fait une belle allégorie avec la pile.
Ouais.
Il dit voilà, alors, complètement. Les machines, on leur a privé le soleil, donc ça c'est nous qui avons ruiné la planète en privant le soleil. Ouais. Et il dit, ils ont trouvé une nouvelle source d'énergie, nous, voilà, on est des piles.
Ouais. Ouais, et ça c'était toujours malaisant parce que là, rien que la scène de voir la machine qui tire un peu les bourgeons, tu sais, là,
ouais, qui ouais. cultive l'humain c'est ça. Comme une plante et puis qui va le réimplanter.
Il n'y a plus de reproduction, tout
tu vois qu'il réimplante là où était Néo ouais. juste avant, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, Anderson, c'est s'il ça, n'y a ouais. pas Néo tout de suite.
Ouais. Donc il n'y a plus de reproduction et c'est purement de la création génétique maintenant.
Ouais, on est cultivé.
Ouais. Donc là, t'as quand même des références à des romans comme un peu comme Le Meilleur des Mondes, tu sais, où c'est purement génétique, il n'y a plus de contact entre les êtres humains, ou bien t'as des romans, t'as pas mal de références aussi à Terminator pour la noirceur du truc, les machines qui dominent l'espèce humaine, tout ça. Quoique, même si c'est pas aussi sombre, hein, ou si y a quand même cet aspect un peu dominatrice de la machine qui est omniprésente, on va dire, un peu comme la Matrice quelque part.
Ouais.
Et à partir de là, ben il est écœuré, quoi. Et il regrette d'avoir pris la pilule rouge dans cette scène-là.
Bah, il y a même une scène avec le méchant qui te dit j'aurais dû choisir cette putain de pilule bleue, tu vois.
Ouais, parce que t'as une espèce de traître à un moment. Ouais. Qui.
Pour faire la jonction entre les deux mondes.
C'est un peu le traître qui.
Lui qui regrette complètement d'avoir pris la pilule rouge.
Il pactise complètement avec l'agent Smith,
ah ouais,
d'ailleurs.
Complètement. Ouais.
Bon, on verra que Smith, au départ, il est pas là. Il tient avec la matrice. Mais dans les autres films, il change un peu d'avis. Hein.
Ouais, c'est encore plus compliqué que ça, on en reparlera.
Parce que lui, c'est
le deuxième film.
C'est un agent, c'est comme un agent de la Matrice, quoi.
Normalement, c'est un agent de la Matrice, mais il a été contaminé par Neo, en fait. Donc, un virus, après. Ça devient un virus.
Bah, il y a tout les déroulements, c'est-à-dire comment faire pour... c'est le but du truc, c'est comment faire, comment réveiller tous les...
On peut lui dire que c'est l'élu.
Ouais.
Mais l'élu de quoi ? Voilà, au début, t'as dit, oui, c'est l'élu, mais on sait pas, c'est l'élu, mais on sait pas ce qu'il fait. Tu le sais qu'à la fin, de toute façon, ce qu'il peut faire, l'élu.
Les capacités de l'élu. Mais pendant 2 heures, c'est un film qui propose quand même pas mal de visuels, de scènes d'action assez impressionnantes. Je parle de chorégraphie aussi, des chorégraphies de combat qui sont réalisées par Yuen Yu Ping, qui est surtout connu pour les chorégraphies de films d'arts martiaux, de films de sabre.
Comme Tigre et Dragon.
Tigre et Dragon, ouais, voilà. un truc comme ça. Il lui a fait beaucoup de ça. Puis aussi, t'as cette scène assez fabuleuse qui est culte, c'est la scène du Bullet Time.
Bullet Time,
ouais, justement.
Voilà. C'est devenu.
Alors, pour l'expliquer, cette scène, de toute façon, je vais pas l'expliquer parce que visuellement, elle est déjà incroyable, mais elle est restée culte. Et puis, faut savoir que c'est pas le premier film qu'il a exploité. Il y avait Michel Gondry qui avait un peu innové dans un clip de. Enfin, tu connais un peu Gondry, tout.
Oui, je connais surtout par les clips de Björk.
C'est ça. Mais il y avait justement, Gondry s'était un peu servi de cette technique dans un clip et ça avait donné une idée aux Wachowski parce qu'on n'a pas dit qui était à la tête de cette trilogie.
À l'époque, c'était les frères Wachowski.
Les Wachowski, on dit les Wachowski maintenant. Ouais, donc un film qui pose beaucoup de réflexions, qui nous interroge aussi sur nos.
Sur nous-mêmes, hein.
Sur l'existence, tu vois.
Ouais,
sur l'existence même.
C'est quoi l'existence, hein, carrément. C'est ça. Moi, à la fin du film, c'est voilà, c'est quoi ton existence ? Parce que tu te dis merde, si ça tombe, voilà quoi.
Ouais, on se pose la question de savoir si nous-mêmes on n'est pas dans une espèce de monde virtuel, quoi.
Bah en fait, c'est parce que voilà, notre monde est hyper mathématique.
Ouais.
Donc du coup, je sais plus qui c'est. Alors ça remonte quand même. Il y en a toujours un qui s'est demandé si on n'était pas dans une simulation informatique. Et le film vient de là. Hein.
C'est ça. Ouais, en fait, ils ont puisé dans ces questionnements, mais il y a beaucoup de littérature. Il y a surtout un roman qui revient beaucoup en évidence. C'est le roman neuromancien de William Gibson, où justement, il y a cette espèce de trio qui explore... alors, c'est une espèce de trio de hackers informatiques qui explore justement une entité qui s'appelle la Matrice. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'influence de ça. Et puis, il y a aussi pas mal de références, que ce soit la religion. Alors, les clins d'œil au bouddhisme, ils sont légion dans ce film-là. Déjà ?
Bah ouais, mantra surtout. Au fait, que le bouddhisme, en fait, le but du jeu d'un... Enfin, le but du jeu d'un bouddhiste, c'est d'arrêter de vivre.
D'accord.
Voilà, parce qu'en fait, on est réincarné. Mmh. Et en fait, Siddhartha, c'est le premier qui a réussi à enfin vraiment mourir. Arrêter D'accord. d'être incarné pour arrêter de souffrir.
Donc il y a un parallèle avec Néo, quelque part.
Il y a un parallèle à que la vie, c'est une illusion et qu'il n'y a que la mort qui peut te libérer.
D'accord.
Donc ça fait le parallèle avec ça, parce que t'as vu, il doit mourir pour renaître.
Ouais, c'est ça. Ah, parce que c'est ça qui arrive à la fin. Mais on racontera un petit peu notre interprétation de la fin, parce que selon les personnes, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pareille.
On peut se servir comme on veut, en fait.
Mais bon, il y a aussi pas mal de références mythologiques. Hein.
Aussi.
Bon, Morpheus, le dieu du sommeil. C'est ça. Ouais, c'est le dieu du sommeil.
Néo, le renouveau.
Ouais, aussi.
Trinity, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer.
Il y a aussi pas mal de références à la religion. Alors, je parle du bouddhisme, je parle aussi de la religion catholique avec la Bible, tout ça. On ne va pas les décrire en... C'est vraiment un mélange un peu de tous ces références. Et puis, au niveau technique, on a aussi pas mal de références au manga. Je pense à Ghost in the Shell aussi, quelque part.
T'as des références là-dedans, dans les scènes de combat, ouais, t'as des références, ça fait très irréel, quoi, ça fait des combats. Bah, comme ils disent, hein, voilà, la matrice, il y a des lois, certaines sont faites pour être enfreintes et d'autres pour être violées. Donc tu vois, il n'y a pas de règles en fait.
Puis moi, quand je pense à un monde virtuel, je pense aussi à Tron, ce classique de 1982 de Steven Spielberg. Je sais pas si tu as vu Tron.
Ouais, je l'ai vu.
Ouais. Donc, un monde assez, pas carré, on va dire, en fil de fer, hein, dans le premier film.
Alors, vous avez que les moyens du bord à l'époque. Ouais, hein,
mais bon, c'était pas trop mal fait quand même.
Non, c'était bien fait.
Il y avait la séquence de la moto et tout. C'était bien. Mais il y a pas.
Tu vois, encore un monde où c'est le programme échappe à son créateur. Quoi.
C'est ça. Et t'as le créateur qui est justement qui est prisonnier à l'intérieur
de son propre programme. Enfin, son propre programme à l'intérieur d'un programme.
Ouais, ouais. Mais c'était super bien fait. Moi, je trouve Tron. Je revois tout avec plaisir. Il y a même une suite qui est un peu moins réussie, mais qui est quand même divertissante. Et bah, tu l'avais vu, le Tron l'héritage?
Ouais, je l'ai vu.
Ouais. Et qu'est-ce que t'en avais pensé par rapport au premier?
C'était pas pareil.
Non.
C'était un peu plus lent.
Il y avait plus la découverte, il y avait plus la nouveauté, je crois.
T'avais pas de surprise.
Ouais, voilà, que c'était pour une petite parenthèse pour dire que la virtualité au cinéma, il n'y a pas eu beaucoup hein, avant Matrix.
Il y a eu le cobaye.
Ouais.
Cyberspace.
Ouais, mais ça, c'était pas vraiment le cœur de l'intrigue.
Non, c'était pas le cœur de l'intrigue. Non.
C'était plus, il fallait le cobaye, c'est d'après Stephen King, et il fallait. Donner de l'intelligence, c'est un peu d'esprit, quoi. C'était ça l'histoire du film. Mais c'est vrai que le cobaye, c'est un peu innovateur d'un côté un peu numérique. C'est-à-dire qu'il crée un monde virtuel quand même derrière. Il y a l'exploration d'une espèce d'entité artificielle, quoi. C'était ça, le cobaye. Mais après, ça a suivi, mais on parlera peut-être un peu plus des films sur les mondes virtuels en fin de podcast après la trilogie. Et la saga, on va dire, parce que il y a pas que les films, il y a aussi
Animatrix,
et puis il y a aussi des jeux vidéo dont je parle.
Hunter the Matrix
aussi. Tu avais joué?
Non, jeux vidéo, non, j'ai pas joué.
Donc on en parlera comme ça sommairement. Ouais. Donc ce film, la fin pour toi, cette interprétation sur
encore une fois la fin
sur un peu une espèce de comment je dirais de un peu de personnage christique. Il faut qu'il meure pour se réincarner, quoi.
Il meurt pour sortir de la matrice. Et pour montrer qu'il est élu, il meurt encore. C'est-à-dire qu'il doit toujours mourir pour se transcender lui-même, tu vois.
Il meurt deux fois, en fait.
Il meurt deux fois, parce qu'à Smith lui tire dessus.
Ouais.
Trinity, elle retire... elle lui l'embrasse pour faire retirer la balle, quoi. Non, c'est dans le 2 qu'il retire la balle. Trinity, elle l'embrasse, et puis du coup, il se réveille.
Ouais.
Voilà. Donc elle avait dit qu'elle servait juste à ça. Elle a dit, c'est moi qui te ferai revenir. Elle l'embrasse dans le monde réel, et il se ressuscite dans la matrice, et là, il devient pété de pouvoir christique.
Là, il y a ses facultés qui explosent complètement.
Ouais, voilà, là, il est encore mort une fois et paf, il remonte en niveau.
Ouais.
À chaque fois qu'il meurt, on dirait un Senseiya, le mec. À chaque fois qu'il meurt, il monte en niveau.
Il y a un principe de jeu vidéo, c'est que t'acquiers un nouveau pouvoir à chaque niveau de. Bon, j'ai pas le jeu. Matrix est loin quand même du scénario de jeu vidéo classique. Hein. C'est quand même bien écrit, ça suit bien. Mais il atteint tellement un niveau, il atteint quasiment un niveau d'immortalité dans la matrice, quoi. C'est ça que.
Bah après, il fait ce qu'il veut de la matrice.
Donc
il vole s'il veut.
Il vole complètement. C'est ce qui arrive à la fin d'ailleurs.
Il se bat avec les programmes à même plus qu'à Hermégal parce qu'il peut les effacer.
Ouais, complètement.
Bah c'est d'ailleurs là qu'il contamine Smith.
Donc Smith meurt dans le premier. On est bien d'accord.
Bah en fait non, parce que dans le deuxième, tu expliques qu'en fait il est pas vraiment mort, mais que, on en reviendra.
Donc
dans
comme
le
c'est un programme, il peut revenir, c'est ça.
Non, enfin c'est encore plus compliqué.
Ah bon. Est-ce que on peut peut-être passer au deuxième, ou est-ce que t'as encore des choses à dire
pour dire que le premier, le film à lui-même il suffit. Puis après, c'est un film franchement qui te fait remettre en question. Puis après ils ont eu l'idée, alors saugrenue ou bonne, ça je sais pas, on verra plus tard, de refaire des suites. Et là après je trouve que ça part un peu plus en cacahuète.
Ouais, disons que ils ont attendu quand même 4 ans pour faire une suite, sachant que le premier film en DVD, il a cartonné parce qu'on était dans les
Et au cinéma, il y a pas cartonné tant que ça, hein. Il a fait des bonnes entrées, mais c'est pas à la hauteur d'un vrai blockbuster.
Ça a pas été le phénomène que c'est maintenant par exemple.
Ça a été un épiphénomène, et puis avec les sorties en DVD et The Animatrix qui expliquait un peu le reste, là c'est devenu un phénomène.
C'est vrai que ça n'a pas été un gros succès. Ça a bien marché parce que au box office.
Ça a bien marché parce que.
Mais il n'y avait pas cette aura de film culte déjà.
Voilà.
C'était un blockbuster lambda, quoi, tu vois.
Ouais, il est devenu culte par la suite, une fois que les gens, ils ont commencé à réfléchir sur le film, quoi.
Ouais. À se poser des questions et à s'interroger sur les différentes scènes et les multiples références qu'il y avait, quoi.
Aussi.
C'est ça le truc. Donc, ils ont quand même attendu 3 ans, 4 ans, donc jusqu'en 2003 pour faire une suite. Je pense que c'est quand même la Warner qui a poussé parce qu'ils voyaient que le truc était rentable, qu'il avait pérennisé quelque part grâce au DVD, au circuit, comme tu as dit. Et donc, ils ont décidé de faire Matrix Reloaded. Donc, on retrouve les mêmes acteurs. Avec une histoire différente. Cette fois, Neo veut trouver... En fait, c'est un film qui sème un peu les indices. Hein. Il doit trouver une clé et ensuite pour ouvrir une porte qui mène à l'architecte.
Ouais, ça devient un peu plus RPG. C'est-à-dire que...
Là, on a un vrai scénario de jeu vidéo, quoi.
Là, on commence à se rapprocher de l'exploring game, du RPG, du truc comme ça.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de défauts dans ce film, hein, quand même. Moi, je pense notamment à cette scène de rêve party qui se déroule en plein milieu du film. Qui n'a rien à faire là pour moi.
Déjà. Oui, avec le mérovingien.
Ouais, et c'est dans ce film-là qu'on découvre la cité de Sion.
Sion,
c'est
Sion. On voit un peu plus Sion.
Donc on découvre Sion et on découvre un peu la population des survivants, quoi. Ce qu'on n'a pas vu du tout dans le premier, hein, vu que dans le premier, tout se déroulait dans le vaisseau, quoi.
Non, dans le premier, t'as que Tank ou Dozer qui sont des enfants de Sion parce qu'ils n'ont pas de câble, c'est tout. C'est juste ça.
Mais c'est un peu plus intime, on va dire. Hein. Il y a un peu moins cet aspect épique qu'il y a dans le 2, où vraiment on découvre la cité sous-marine, j'allais dire. La cité souterraine.
Bon, on pourrait dire que le premier, il y a un peu plus huis clos.
Ouais.
Puis le deuxième, c'est... on visite le monde extérieur, quoi.
Ouais, finalement, quand on prend un bol d'air, c'est dans la matrice. Hein, c'est pas dans le vaisseau, dans l'espèce d'aéroglisseur, quoi, tu vois.
Ouais, voilà.
Mais si c'est intéressant aussi, cet aspect un peu renfermé quelque part. Hein.
Ah, le prix de la liberté est cher, ouais. Quoi, en gros. Hein.
Alors, comme ils ont eu plus de budget, ils se sont dit, on va balancer les sentinelles et tout maintenant, tu vois. Et puis, on les voyait quand même dans le premier. Mais là, il y a quand même une grosse armée de sentinelles.
Dans le premier, tu voyais 3-4 sentinelles.
Ouais.
Ah, dans le deuxième, 3-4 millions.
Ouais, là, c'est vraiment la surenchère de sentinelles. Hein.
Ouais.
Alors, ils commencent à creuser. C'est là-dedans qu'ils commencent à creuser pour
aller... Ils reçoivent une information comme quoi les sentinelles sont en train de creuser. On les voit pas vraiment, les sentinelles. Mmh. On les voit un peu par image paradoxale ou... C'est vu d'en haut qu'ils sont juste en train de creuser avec une espèce de machine et que les sentinelles sont derrière en train
d'attendre. C'est vrai, il y a une espèce de foreuse, là. Hein.
Voilà.
Donc, les sentinelles, c'est des entités, c'est des espèces de drones.
C'est des
drones mortels de la matrice, quoi.
Voilà, et qui vont pour une sentinelle par habitant de Sion.
Alors, c'est une espèce de... C'est vrai qu'elles font peur avec leur... cette espèce de pieuvre qui vole.
Ouais, c'est ça, une pieuvre métallique, un peu comme... un peu comme quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de références, une pieuvre métallique. Quoi.
Ouais, c'est ça. Un poulpe, on va dire. Voilà, quoi, mais c'est vraiment le vrai danger à portée de main, quoi.
Voilà, le danger qui arrive dans le monde réel. Ouais.
Et là, il commence un petit peu à penser à un plan de résistance.
Il va voir l'oracle qui lui dit, pour arrêter les machines, il faut aller voir l'architecte. Voilà. Du coup, il repart en recherche et tout.
Donc après, il y a beaucoup de... On alterne, en fait, dans ce film, entre les scènes dans la matrice.
Ouais, et les scènes d'Ancien.
Et les scènes d'Ancien où
la résistance s'organise.
Il commence un petit peu à investir les exosquelettes.
Ouais, un peu comme...
Qui rappellent un peu les trucs de Aliens, comme tu disais tout à l'heure. Là,
ouais, ça pensait à des mechas.
Ouais, il y a Ripley qui...
Il y a Ripley qui arrive.
Qui fout une tatane à la reine Alien, d'ailleurs, avec ça. Et puis en parallèle, t'as toutes ces scènes un petit peu spectaculaires. Hein. Moi, c'est la scène de l'autoroute que je retiens principalement parce qu'elle est vraiment bien faite. Et puis que
t'as aussi les scènes où Niobe essaye d'échapper aux sentinelles en passant par les souterrains.
Ouais, ça aussi.
Voilà.
Mais ça, c'est un peu plus classique, je trouve.
Ouais, mais tu vois, ça commence à avoir des scènes d'action et dans la matrice et dans le monde réel. Tu vois, c'est
d'accord.
Ce que je disais. Là, on a pas du 50-50 non plus, mais on sait que l'un a l'incidence sur l'autre, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
Ouais, donc cette scène sur l'autoroute avec les espèces de jumeaux fantômes.
Ouais, puis le maître des clés qui faut essayer de récupérer, parce que le mérovingien, il n'aime pas qu'on pique ses affaires.
Ouais, aussi. Donc le mérovingien qui est incarné par Lambert Wilson, qui est dans un total mais surjeu.
Alors, Lambert Wilson, il est dans le surjeu, parce qu'en fait, on lui avait demandé de parler français un peu dans le film en VO.
Et
quand il a parlé français, on lui disait qu'il parlait pas bien français.
Ah bon ?
Donc, du coup, il y a du surjoué.
Ah ouais?
Parce que ça faisait pas assez français. Non, on se fout de la gueule de qui? C'est enfin, Lambert Wilson, les mecs.
Débiter des grosses conneries du style, je sais
oui,
plus quoi.
J'adore les insultes.
Les vulgarités.
Putain de bordel de merde.
Ouais,
d'enculé,
ouais,
ouais, bah, c'est, n'a rien à faire là, hein.
Et puis, t'as Monica Bellucci, mais vraiment, c'est la belle plante, quoi.
Alors, moi, je savais pas que les programmes étaient nymphomanes. Ce que je veux dire, c'est un programme, on est d'accord, le Mérovingien et elle, c'est deux programmes un peu bazar, pirate, machin, qui sont émancipés.
Ouais.
Et l'autre, roule-moi une pelle et je vais t'aider, quoi. Enfin, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Ah, c'est n'importe quoi.
Ouais, donc voilà, quoi, il passe par plusieurs étapes. Et bon, on va pas raconter tout le film, hein. De toute façon, je crois que ça fait deux heures, un peu plus que deux heures, ça. Non
au moins, hein, facile.
Ouais. Y a beaucoup de blanc. Enfin, il y a beaucoup de longueur, je trouve, des défauts.
Bah, il y a beaucoup de longueur. Dans le 3 aussi, il y a beaucoup de longueur.
Ouais, enfin,
mais de toute façon,
on n'est pas encore au 3, mais.
Comme ils avaient prévu de faire deux films pour rentabiliser
bah,
encore à mort.
Ils ont été tournés en même temps, quasiment.
Ils ont été tournés en même temps, donc forcément, t'as des longueurs. Et entre deux, Smith revient plus puissant qu'avant aussi.
Oui, alors là,
est capable de
est-ce
se dupliquer.
Est-ce que c'est pas un peu un problème, ça, de voir que Smith a plus d'aura maintenant?
Alors, Smith, en fait, Smith explique à Neo que quand Neo a explosé Smith, quelque chose est rentré dans le programme, dans Smith, et ce qui fait qu'il a des capacités de Neo.
C'est ça qu'en fait, il s'est déconnecté de la matrice.
C'est pour ça que du coup, il s'est émancipé de la matrice.
D'accord.
Ça devient un programme
indépendant
comme le Mérovingien. Ou...
C'est un peu comme le Borg qui se déborgisait, quoi.
Ouais, voilà, il devient plus indépendant et il comprend que, voilà, que même lui, dans la matrice, il n'y a rien à foutre là, quoi. Parce que...
En fait, il a acquis un peu une conscience, quoi, quelque part.
Il a su se désolidariser de son programme.
Ouais, c'est ça. D'accord, moi j'avais pas bien vu cette histoire de.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça donne autre chose. Hein,
mais non, mais ça a l'air très juste ce que tu dis. Et puis il va voir notre ami l'architecte. Et puis c'est là que ça déraille.
Et là ça part en cacahuète.
Ça déraille.
Au moment où il voit l'architecte, là il y a Fabien et moi, on n'a plus la même vision du film, quoi.
Alors il rencontre l'architecte. Moi je vais livrer une interprétation. Je suis pas sûr qu'elle est bonne. Je pense que ça. C'est une interprétation qui est ouverte à tout le monde.
C'est comme Interstellar, c'est ouvert à chaque
comme
supposition.
Comme 2001, l'espace, à la
aussi
fin,
pareil.
C'est pareil. Mais à part que 2001, je pense que c'est fait avec plus de subtilité que...
Ouais, parce que là, c'est du blabla et t'arrives plus à comprendre ce qu'il dit. Il en dit tellement.
Bah, ils sont dit, soit il est noyé par tellement d'expressions et de philosophie et de machin,
ouais.
Que tu comprends que finalement, dans le premier film, il y avait deux niveaux. Il y avait le monde réel, il y avait le monde de la matrice.
Ouais.
Et que là, d'après ce qu'il dit, que ça fait 4 fois, je sais plus combien, 11 fois que...
Bah, il parle de, ça fait plein de fois qu'il reboot la matrice.
Qu'il reboot la matrice. Ça fait que le monde réel n'est plus le monde réel, et qu'il y a encore un niveau au-dessus du monde réel. Donc ça veut dire que Neo est un programme, pour moi. C'est plus un être humain.
Ouais, c'est ce que, là, on est d'accord.
Ah bah d'accord.
En fait, il y aurait le monde de la matrice, après il y aurait le monde réel Sion.
Ouais.
Et en fait, le monde réel Sion serait encore.
Non, mais ça, c'est une simulation.
Matrice.
C'est une simulation.
Parce qu'en fait, ça expliquerait.
C'est la simulation à l'intérieur de la simulation, la matrice.
Voilà. Et ça expliquerait pourquoi Neo conserve ses pouvoirs en dehors de la matrice.
C'est ça. C'est un peu plus logique. Est-ce que tu trouves
mais c'est
que
pas
c'est,
clair.
Tu trouves que c'est cohérent avec le discours du premier épisode?
Bah non.
Tu vois.
Mais justement, c'est parce qu'on essaye de nous montrer qu'il y a plusieurs couches dans la couche.
Ouais, mais ça c'est un petit peu un argument commercial de dire on va étendre l'univers. T'es peut-être pas d'accord avec moi.
Bah, ça tombe, c'est ce qui est prévu pour le 4.
C'est ça.
Dire que
cette scène là avec on voit bien que c'est une entité artificielle l'architecte.
Bah oui, parce que dans sa façon de parler,
ouais.
Il est, ce que je te disais juste avant, il est binaire, tu vois, 0 1 0 1
ouais,
0
1. Il y a quand même une espèce d'arrogance quand même.
Ah oui, il est super arrogant parce que c'est un tout en fait.
Ouais.
C'est il contrôle
il y a un peu dans l'absolu quoi.
Et puis ça fait quand même 11 incarnations qui vit la même chose quoi. Donc il y en a un peu marre à la fin je suppose.
Il y a un gros reboot quoi, tu vois.
Ouais. Là c'est Windows Vista le mec, il a été rebooté 10 fois.
Avec tous les bugs qui entre
toujours pas stable.
Il y a avec tous les bugs que ça comporte, hein, attention hein. Ouais, bah Reloaded, moi j'aime bien encore, je trouve que c'est un bon épisode, qu'il y a certaines actions qui sont bien. C'est bien équilibré entre les scènes de Sion et les scènes de la matrice. Ce qui marche pas du tout dans le 3, quoi.
Dans le 3, on part dans le manga total.
Donc c'est... Matrix Revolution, hein, je rappelle le titre.
Matrix Revolutions, là, on a commencé à me perdre.
Là, on est complètement perdu dans un jeu vidéo pour moi.
On est dans un Ready Player One avant l'heure. t'es perdu dans le truc et. Là, ça se concentre, d'accord, sur la bataille de Sion. T'as très peu d'interventions dans la Matrice. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un remplissage phénoménal avec des scènes de bagarre, c'est tout.
Bah, il dure moins longtemps que les autres. Ça fait déjà qu'on voit que l'inspiration scénaristique, elle est plus là déjà.
Ça se voit qu'ils ont tourné l'un à la suite de l'autre, mais...
On a encore un combat qui dure des heures.
Voilà, le combat...
Mais il dure des heures, vraiment.
Ouais, hein. Il dure.
Sous la pluie, et puis ils sont je sais pas, parce que de toute façon... En plus, je trouve que les combats avec Smith, entre Smith et Neo, ils sont répétitifs.
Pas forcément, parce qu'ils sont censés être, du coup, sur le même pied d'égalité.
Ils arrivent, parce que Smith, il peut maintenant s'incarner dans toutes les personnes, qu'il croise.
Ah bah, c'est pas qu'il peut, il est incarné dans toutes les personnes qui
croisent.
Ça fait
un peu les Borg qui sont assimilés, quoi, tu
Sauf
vois.
Neo.
Ouais.
Voilà. Et il a besoin de Neo pour quelque chose, mais on sait pas quoi.
Mais t'as le truc où il se transforme, t'as les agents qui se transforment.
Ouais.
Même t'as des agents qui ont des visages différents maintenant.
Même l'oracle, hein, l'oracle, ça devient Smith, enfin Smith devient l'oracle, ou l'inverse. Pareil pour l'architecte, tout, enfin il devient tout.
Ouais, ouais. Il vampirise complètement la machine, quoi. Et c'est un peu pour ça que la machine, elle accepte finalement le deal que propose Neo, quoi.
Bah, Neo, en fait, tu comprends pas pourquoi la machine elle accepte au début. À la fin, tu comprends pourquoi. Mais au début, la machine, elle le met carrément dans le centre programme de la matrice. Et dire branche Neo, quoi.
Il donne plein les pleines fonctions, quoi, carrément.
Ouais,
quoi.
Voilà, il donne tous les accès à la matrice.
Il est même dopé, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et il devient, il peut lutter à armes égales avec Smith, et Smith peut lutter à armes égales avec Neo. Sauf que, t'apprends le piège à la fin, quoi. C'est la matrice qui a tendu un piège à Smith à la fin.
Mais c'est assez impressionnant cette scène, hein, quand il arrive dans la cité tout seul, et puis que ça fait un peu dark fantasy, tu sais, cette espèce de...
On est entre le steampunk
et... Qui surgit là, de soleil avec des pointes et tout,
voilà.
Tu sais.
Ça fait un peu le soleil des Teletubbies, mais en plus flippant.
Mais avec des pointes et tout, avec ce visage qui bouge, là, tu
vois. Visage de bébé, en plus.
Ouais, c'est hyper un peu malsain, même. Je trouve que c'est une des scènes qui fonctionne le plus dans le film. Alors que les autres, avec le reste des scènes, elles sont pas mémorables pour moi, mais bon.
Bah, elles sont tellement pas mémorables qu'on a du mal à en souvenir.
Puis, je trouve que c'est trop long, quoi. Le combat, il est trop long.
Même le combat d'Ancion, il est trop long. Et puis, je veux dire, les machines, elles arrivent, il n'y a plus de défense. Neo y arrive et hop, il stoppe ses machines. Il dit attends, je vais voir comment ça tourne. Bah non, t'es une machine, t'attends pas comment ça tourne.
Ouais, parce qu'il est aveugle aussi, faut oublier.
Bah du coup, encore une fois, il est aveugle, donc il voit encore une nouvelle vérité.
Donc il voit encore mieux qu'avant.
Il voit encore mieux qu'avant une fois aveugle.
Il voit les machines, il voit les codes et tout comme il voyait avant, quoi.
Ouais, sauf qu'il voit les énergies en jaune, quoi.
C'est ça. C'est on est plus dans les teintes de rouge et de jaune, en fait.
Ouais, voilà.
Dans les couleurs vives.
Je dirais même jaune et noir, quoi.
Ouais.
Il est passé de la matrice vert à jaune et il voit tout, il voit les flux d'énergie, enfin je sais pas quoi, puis voilà, il attrape encore un
dans
vision.
Il y a un peu de Jedi parce qu'il fait ça, puis les sentinelles elles explosent, tu vois.
Bah ça c'était déjà le cas dans le 2, mais même qu'il s'évanouit.
Ouais, mais là c'est encore pire, je trouve.
C'est dans le 2, il en fait une et il s'évanouit et ils doivent le rechercher dans le.
Ouais, mais là il y a.
Dans l'autre deux mondes.
Là il le fait sans effort, quoi, quasiment.
Sans effort, mais il n'y arrive pas quand même parce que le vaisseau finit par s'écraser.
Ouais, bien sûr, puis Trinity elle meurt et.
Trinity elle meurt, puis voilà. Quoi.
Et Morpheus. Morpheus, je sais plus comment il finit, genre Morpheus, en fait.
Je pense pas qu'il meurt. Je suis pas sûr.
Il survit quand même.
Bah, il me semble, ouais.
Ah, je me souviens.
Avec Niobe et tout.
Ouais, aussi. Bah, en fait, il y a que Morpheus qui survit dans l'histoire, quoi. Parce que Neo, il meurt.
Pour raconter peut-être la suite à Sion. Hein. Parce que Neo, en fait, il a servi de passerelle à la mère matrice. C'est-à-dire que, comme elle a été branchée dans le central de la matrice, quand Smith a pris possession de Neo, parce qu'en fait, Neo devait perdre pour gagner.
Mmh.
Encore une fois, il devait mourir pour encore s'accomplir.
Ouais.
Il meurt une paire de fois quand même dans la matrice.
Ouais.
Hein. Et du coup, la matrice, comme ils avaient le corps de Neo, il a pu rebooter toute la matrice en passant par Neo, qui s'est fait absorber par Smith.
D'accord.
Et du coup, hop, il reboote la matrice et t'as l'architecte qui dit à l'oracle, on est reparti pour un cycle.
Donc le 12e punk, hein, en fait.
Voilà.
Ouais, donc...
C'est juste que cette fois-ci, la machine a promis de pas empêcher ceux qui veulent sortir de la matrice
ceux
de
qui
sortir
veulent
de la matrice.
Être réveillés de
d'être réveillés, voilà. C'est toute la promesse que la machine fait.
Enfin, ça va que il est. Genre, alors, on ne sait pas si elle va tenir promesse, mais on suppose quand même. Mais on est quand même encore dans l'interrogation à la fin du film.
Voilà, la fin du film, c'est encore l'interrogation, c'est que
tout n'est pas résolu, quoi.
Tout n'est pas résolu, c'est juste que en fait, t'as l'impression que t'es reparti en statu quo.
Ouais.
Voilà, c'est on a rebooté. En gros, c'est on a rebooté. Hein. On a rebooté la matrice, tout s'est reparti.
Pour toi, c'est pour toi en fait les
on a
les
fait
trois,
la fin du
film, les trois films, ils font une boucle.
Voilà, c'est une boucle. On a fait la fin du film, on repart à zéro. On attend le prochain élu, puis c'est tout.
Qui est pas forcément Neo, quoi.
Voilà.
Ouais, on peut l'interpréter comme ça, mais c'est un peu compliqué des fois d'analyser une trilogie comme ça.
Et encore une fois, c'est pas une fin claire, donc c'est de l'interprétation. On peut que interpréter ce qu'on a eu envie de voir en fait comme fin.
C'est vrai que c'est très personnel, hein. Surtout le discours de l'architecte, hein. Ça, c'est...
Alors, discours de l'architecte, moi, je te jure, j'en ai moins chié pendant mon épreuve de philo au bac. Hein.
Parce qu'il fallait traduire mot à mot ce qu'il raconte, le mec. Alors, je sais pas, moi, pourquoi cette volonté de faire aussi compliqué, quoi.
Et il voulait partir, je pense, dans l'œuvre philosophique.
Mmh.
C'était un peu le cas au début, hein. Mais je pense qu'ils ont voulu partir, comme tu dis, tellement loin et tellement prendre de références qu'après, tu te perds.
Ça a été trop lourd. Mais de toute façon, la conclusion de cette trilogie, c'est que le premier se suffit à lui-même, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense. Et que ces deux épisodes, c'est purement des objets un peu commerciaux de l'univers étendu, quoi.
Oui, c'est ça. On a mis un truc qui s'appelle Sion dans le premier, on le voit pas. On dit, on va exploiter un peu cette piste-là, voilà, c'est tout. Et puis après, on nous dit que, on essaye de nous faire comprendre que... Il y a la matrice, il y a autre chose derrière, mais c'est pas tout, il y a encore autre chose, au cas où on voudrait faire une suite.
C'est ça.
Ça me fait penser à ça.
En parlant d'univers étendu, vu qu'on a fini de parler de la trilogie, on va peut-être parler de ce court-métrage qui est sorti avant Reloaded d'ailleurs, qui s'appelle Animatrix.
Animatrix ou Matrix 1.5. Alors c'est plusieurs courts-métrages.
Ouais, tu veux en parler peut-être ?
Alors moi je les ai vus, notamment le skater, c'est celui qui est dans le mecha à la fin et qui tire sur la chaîne pour ouvrir.
Ouais, c'est complètement des dérivés. Hein.
Voilà, donc
il n'y a rien qui concerne Neo là-dedans.
Non, il n'y a rien qui concerne Neo. C'est le skater, tu sais que c'est le petit jeune dans Matrix Révolution et Matrix Reloaded.
Ouais.
Celui qui est toujours collé au basque de Neo.
Ouais.
Après, il y a ceux qui ont été chercher les plans comme quoi les pieuvres. Bah, c'est Rogue One en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui ramènent
l'Osiris ou quelque chose comme ça.
Je sais plus le nom, mais c'est eux qui ont trouvé les plans et qui disent attention, les machines elles arrivent.
D'accord.
Tu vois, c'est tout ce qui va te raccrocher au Matrix 2.
Ouais, en fait, c'est tout des appendices au deuxième épisode. Quoi.
C'est des appendices qui t'amènent vers le deuxième épisode. Et franchement, il faudrait le voir parce que ça te permet de comprendre un peu plus de choses du 2.
Bah, surtout que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le court-métrage en deux parties, là, la seconde renaissance, qui explique justement tout le passif avant la conquête des machines par c'est-à-dire que toute cette violence qu'il y a eu, parce qu'il y a une scène qui est assez gore d'ailleurs, où il arrache un visage d'ailleurs à un robot.
Ouais, ils le font rire, ils le font pleurer, ils fouillent dans le cerveau
et les robots qui sont maltraités et qui commencent à se révolter. Et ça, ce court-métrage, il rappelle un petit peu Skynet, quoi, quelque part.
Sauf que là, Skynet, ça a perdu le contrôle, et là, ce court-métrage, c'est les humains qui ont perdu le contrôle. Du coup, les machines, bah, ils se sont défendus, c'est juste que comme après, ils sont devenus très puissants,
ils s'alimentaient par le soleil.
Elles ont bouffé l'humain.
Les humains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Très intelligents.
Et ils ont lancé des bombes
Ils ont balancé des espèces d'avions avec plein de fumée, si je me souviens bien dans ce truc-là.
Moi, j'aurais dit des bombes, mais je suis pas sûr. Pour masquer le soleil,
déjà, c'est pas très intelligent, parce que l'être humain a déjà besoin du soleil pour survivre. Donc moi, ça me paraît pas très crédible, cette affaire.
Ouais, puis surtout, les machines, ils ont voulu être une nation, parce qu'ils ont pris ils ont pris un endroit désertique où il y a personne, puis de toute façon, ils avaient pas besoin de culture ou quoi que ce soit. Puis ils voulaient vivre en paix, enfin, ils voulaient qu'on leur foute la paix, quoi. Puis les humains, ils ont dit, oh, l'intelligence artificielle, c'est dangereux, on va aller les buter. Bon,
il y a toujours cet esprit un peu, comment on dit,
suprématiste de l'humain.
Pas ça, qui se rapporte à la guerre, un peu belligérant, un peu belligérant de l'être humain, quoi. Tu vois.
Enfin, c'est l'humain qui décide.
Ouais, c'est ça.
Là, ça faisait carrément.
C'est la suprématie, mais finalement, le truc s'est inversé, quoi. C'est qu'ils ont été victimes de ce qu'on appelle l'ironie du sort, quoi.
Bah,
c'est ce que dit d'ailleurs Morpheus.
Ouais, voilà.
Ouais.
Ils ont voulu priver les machines d'énergie, mais bon, c'est des machines. Voilà, c'est binaire, c'est 0, 1. 0, on n'a plus d'énergie. 1, on va les servir chez les humains. Voilà, c'est binaire.
Non, mais c'est très sombre. Il y a beaucoup de courts-métrages. Il y en a 9 déjà en tout, dont 2 qui sont la seconde. Il y a la seconde renaissance qui est en 2 parties. Ensuite, on a 7 autres. Et c'est à chaque fois des styles différents graphiques.
Oui, c'est plusieurs styles graphiques. En fait, c'était des essais, hein, tout simplement.
C'est ça.
Et faut le voir pour comprendre un peu le numéro 2. Ouais, t'en sais un peu, surtout avec le truc des robots, quoi. Ouais, t'en sais un peu plus après.
Ouais.
Et tous les styles graphiques sont mélangés.
Mais t'as aussi des courts-métrages qui se passent dans la matrice et qui sont pas du tout reliés au film. Je pense à ce court-métrage où il y a une espèce de Japon médiéval avec des guerriers japonais, tu sais, des shoguns ou les shoguns. Et aussi t'as aussi une histoire de détective ou bien des histoires un petit peu indépendantes, tu vois, où justement les personnages ils s'entraînent, ils font des phases d'entraînement. Ouais, non, c'est super intéressant. Je pense que c'est un bon complément à Reloaded, quoi.
C'est une bonne mise en bouche pour Reloaded.
Oh, ça dure pas longtemps, ça dure 1h40.
Mais commercialement, tu vois, ils avaient déjà prévu le truc parce que entre le 1, ils avaient déjà décidé de faire un 1.5. Normalement, ça devait être qu'avec des storyboards.
Ouais.
Bon, comme il n'y avait pas de matière, ils ont refait un peu d'animation derrière. Puis après, voilà, ils ont dit on va exploiter le 2. Qui a fait un carton quand même au cinéma, le 2.
Ouais, quand même.
Le 2 et le 3, ouais.
Ouais, ça a bien marché, hein, parce que...
Ça a mieux marché que le 1.
Ah bon ?
Au cinéma.
Ouais, mais c'est parce qu'ils ont bénéficié de l'aura du 1.
Parce qu'ils ont bénéficié de l'aura du 1.
Ouais, c'est ça aussi. Non, on va continuer sur la lignée de l'univers étendu, j'ai envie de dire. Parce qu'on parlait d'Animatrix, qui est le côté un petit peu animation de... Mais vraiment animation 2D, 3D, hein, on est plein là-dedans. Il y a aussi les trois jeux qui sont sortis. Alors, ces trois jeux qui, là, bon... Ils sont pas très bien notés, hein, ces jeux-là. Il y a des jeux en 2003, Enter the Matrix... Alors là, ça raconte en fait la mission de l'Osiris pour, je pense, retrouver les plans de... Ah, je sais plus...
Les plans du forage des machines, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu une annexe aussi à Reloaded, quoi. Mais c'est le joueur qui, lui, incarne un personnage du vaisseau et doit exécuter la mission, quoi. C'est une espèce de jeu d'aventure, quoi. Ensuite, il y a Matrix Path of Neo. Alors, c'est ça concerne plus le personnage principal, ou avec les facultés et tout de se battre, et plus un jeu de rôle, quoi, tu vois. Et puis, t'en as aussi Matrix Online. Alors, celui-là, il est un petit peu plus anonyme, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu... en fait, t'as toujours un petit peu le même concept. T'es toujours dans la peau d'un personnage, et tu dois toujours trouver les parades pour vis-à-vis des sentinelles, de détourner le regard de la matrice, le regard un peu espionne, un peu cynique, le regard un peu l'œil de Moscou, on va dire. Hein,
un peu Big Brother de la Matrice.
Ouais,
c'est ça.
Le côté 1984, on va dire. Bon, je vais pas parler de ces jeux vidéo parce que j'ai pas joué, mais c'était juste pour l'information, on va dire. Après, on a eu quelques films que moi je recommanderais, que j'avais bien aimé, qui sont sur le monde virtuel, parce que Matrix a justement ouvert la voie à un cinéma plus virtuel. C'est-à-dire que. De recycler un peu les idées qui sont présentes dans Matrix pour faire d'autres scénarios.
Ça a créé un nouvel univers, ouais. Tout simplement. Star Wars, ça a créé un univers. Matrix, ça a créé un univers aussi.
Ouais. C'était tellement un phénomène cinématographique, aussi culturel, que il y a beaucoup de producteurs qui sont pas en mal, qui sont en mal d'argent, hein, on va dire, qu'ils ont créé quelques films. Il y a des daubes. Je n'en citerai pas. Il y a le Cobaye numéro 2, par exemple, qui est vraiment nul. Par contre, moi, je vais recommander Existence de David Cronenberg. Je ne sais pas si ça te dit rien. Où là, ils sont dans une espèce de simulation d'identité qui est un peu organique, quoi. Qui est organique et à la fois mécanique. Il y a Passé virtuel, qui n'était pas trop mal non plus. Alors là, ils jouent un peu sur les différents niveaux dans ce film-là. C'est-à-dire que tu es dans un niveau, et plus tu avances dans le film... Et plus tu découvres qu'il y a de niveau dans le truc, tu vois.
D'accord, non, je vois pas. Ouais. Que j'ai pas
mais
vu.
C'est vachement bien fait. Oh, puis aussi, il y a le Ghost in the Shell, pour moi, qui est incontournable, quoi. Mais qui est qui a été réalisé bien avant Matrix, hein.
Ouais, puis Ghost in the Shell, c'est pas encore le même univers, là. C'est les machines et...
Là, c'est plus le côté cyberpunk, je dirais.
Ouais, puis c'est plus le côté, transcendance humaine, tu sais. Ouais. Humain amélioré.
Ouais, mais il y a quand même une notion d'intelligence artificielle aussi, qui
évolue. Transhumaniste.
Qui évolue, quoi, là-dedans. Ouais. Bon, je vais pas non plus faire la liste, mais bon. Mais il y a un autre film qui explore aussi ce côté virtuel, c'est Nirvana. Alors c'est un film un peu anonyme. Je crois que c'était un film espagnol ou italien, je ne sais plus trop. Il y avait notre ami Christophe Lambert qui jouait un petit rôle d'ailleurs là-dedans. Il aime bien Teddy quand je fais Christophe Lambert. Donc Monsieur Tarzan et Monsieur Highlander. Ouais. Mais Nirvana, c'est super intéressant parce que c'est le film qui construit un univers virtuel, mais avec très peu de moyens. C'est ça qu'on n'est plus dans le spectaculaire, on est vraiment quasiment un peu dans le monde virtuel un peu intime, quoi. Puis il y a aussi, pareil, il y a un épisode que j'ai pas vu, c'est un épisode de la série Black Mirror, quoi, où il y a justement une histoire de couple qui se retrouve piégé dans un espace virtuel, on va dire. Voilà, quoi, que pour quelques références, est-ce que t'as toi personnellement quelques recommandations ou quelques mots à dire concernant Matrix et justement le concept de la virtualité, quoi.
Le concept de la virtualité, ouais. Franchement, c'est vrai que du coup ça te pose des questions. T'as notamment certains bouquins des frères Bogdanov qui... Attention, quand je dis bouquins des frères Bogdanov, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils pompent tout sur d'autres eux.
C'est ça.
Donc c'est pas des frères Bogdanov.
Donc
mais
ils ont rien inventé, quoi.
Ouais, non, ils ont rien inventé, hein. Mais c'est eux qui ont un peu vulgarisé le truc, qui expliquent que, en fait, ouais, c'est bizarre, c'est quand même tout mathématique. Voilà, t'as des nombres qui reviennent tout le temps, ils appellent ça le chiffre de Dieu, enfin des trucs comme ça. Donc ils se disent, c'est bizarre, on dirait vraiment qu'on est dans une simulation. Donc t'as quand même des angles de réflexion. Après, comme tu dis, au niveau religieux, enfin voilà, c'est bizarre. Plus Néo meurt, plus il devient, entre guillemets, un dieu. Et là, bah, c'est pareil dans certaines religions. Donc plus tu meurs, plus tu veux arrêter de mourir, et plus tu deviens éveillé, et moins tu souffres.
Ouais, t'as un peu le summum, quoi. Je sais plus comment on appelle ça, l'espèce de...
la transcendance.
Absolue, ouais.
Ouais, c'est la transcendance. Bah, y a ça dans Stargate aussi. Hein.
Aussi, ouais.
Quand tu meurs, tu deviens...
Ouais, c'est avec Daniel Jackson.
Ouais, quand Daniel Jackson, il devient...
C'est l'élévation ou
ouais, c'est
quoi.
Ça.
C'est ça.
Il devient un ancien parce qu'il s'élève. Ouais, voilà.
Ouais. Il était pas mal cet épisode d'ailleurs.
Et tu vois, des simulations informatiques, Black Mirror, il y en a eu aussi, notamment le criminel qui revit sa simulation informatique à chaque fois parce que là, c'est sa manière de lui faire payer ses crimes. Et tu vois, ça a ouvert des portes. Et franchement, moi je trouve que c'est un morceau de la pop culture qui aurait été très dommage de pas avoir.
Ah ouais, c'est sûr. Non, je pensais aussi au film de Johnny Depp, Transcendance. Qui a injecté son esprit dans une entité artificielle.
Voilà, et puis qui devient totalement belligérant de l'humain parce qu'il ne comprend pas que l'humain continue à être humain.
Et après, il faut domestiquer. Ouais, après, t'as le revers de la médaille, on va dire. C'est le fait que la machine considère l'humain comme un être inférieur, quoi, quasiment.
Ah, c'est l'évolution logique, hein. Ouais. C'est ce qu'on a peur dans l'IA. On a peur que l'IA dépasse l'humain. C'est aussi dans le film avec le robot là qui devient intelligent et puis qu'il finit par. C'est un peu un enfant au début. Le mec il injecte une intelligence artificielle qui apprend vite dans un robot de la police là. Chappie, je crois. Et puis.
Il y a tellement de films qui exploitent ce concept là. Je pense aussi à iRobot qui est l'humain adapté de Isaac Asimov. D'ailleurs, on retrouve pas mal dans La Seconde Renaissance. Je trouve que ça ressemble pas mal au roman d'Asimov, les robots. Souvent, c'est Chappie avec Hugh Jackman d'ailleurs.
Chappie, je suis pas sûr qu'il y a Hugh Jackman dedans.
Ah, si, c'est lui, le créateur d'une espèce de simili ED209, tu sais là.
Non, parce que Chappie, c'est un robot de la police avec des antennes et je suis. Si, c'est vrai.
Si, souviens-toi, il crée un robot.
Il crée un robot.
Et il fait tout justement pour que ce robot-là, il fasse des conneries quoi pour lui, pour vendre son prototype à lui.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis après, le robot, tu vois, comme il a. Il sait qu'il est condamné parce que sa batterie va mourir. Tu vois, il prend possession d'une usine et il recrée des intelligences artificielles en se basant sur ce qui lui a servi de modèle familial.
Il y a même son créateur qui s'injecte sa conscience dans le
robot. Non, le créateur au début voulait s'injecter sa conscience dans le robot et c'est Chappie qui injecte la conscience de son créateur dans un autre robot.
C'était pas trop mal ce film. Il est pas très bien vu, mais il était pas si mauvais que ça quand on regarde
non,
bien.
Non, il est pas si mauvais parce qu'en fait, tu te rends compte que les pires individus, c'est pas le robot, c'est les humains qui font des conneries.
Toujours par simple ambition et puis par maladresse aussi.
Ouais, ou surtout parce que on s'estime meilleur que d'autres choses qu'on connaît pas. Mais après, voilà, on nous a du coup, après, l'a montré aussi que l'IA pouvait être quelque chose. Bon, on l'avait déjà avec Skynet, hein, mais que l'IA pouvait être quelque chose dont il fallait se méfier parce que c'est pas contrôlable.
Ouais, ça, c'est un thème dans la société qui est assez récurrent. Hein. La supériorité de la machine sur l'être humain. Je pense que c'est encore un thème qui peut être exploité longtemps, que ce soit au niveau. Littéraire, la bande dessinée aussi, ou au niveau des films. Bon, Matrix, c'est un phénomène, c'est incontournable. C'est pour moi le dernier gros blockbuster de cette décennie, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas créé de vraies franchises.
Voilà, et c'est le dernier truc frais qu'on a eu. Franchement, c'est bouffée de fraîcheur, voilà, on a eu Matrix. Après, on a eu que du recyclage.
Après, c'était des reboots en continu.
Des reboots, du recyclage, pas de... La Matrix, ça t'a donné un bon coup de frais qui t'a dit « Ah putain, il y a encore des choses à faire pour l'ASF ».
Mais c'était il y a quand même 20 ans, et c'est pour ça qu'on déplore un peu ce manque d'imagination dans l'industrie, quoi, le cinéma. Est-ce qu'on peut recréer une œuvre culte, tu sais? On avait Star Wars dans les années 70.
On a recréé du culte avec le MCU.
Dans les années 80, il y a eu pas mal d'icônes. Je pense à Predator ou à Robocop, tu vois, ou Alien.
Après, on a re-eu du culte dans le MCU, mais encore disparaître. Hein. Il y a eu des bons, des mauvais. Mais sinon, original, non, je vois pas.
Pour terminer, on va peut-être parler deux minutes de Matrix numéro 4 qui est prévu pour l'année prochaine. Alors, on retrouve au casting Keanu Reeves qui revient. Il y a Carrie-Anne Moss qui va revenir aussi. Par contre, Laurence Fishburne ne reviendra pas. Mais ils ont l'intention de mettre un acteur plus jeune pour le rôle de Morpheus. Alors, cet acteur, c'est... Yahya Abdul-Mateen, alors tu connais pas de nom.
Non.
Mais si je te dis c'était le méchant Black Manta dans Aquaman, tu le, bah voilà, tu le cites un peu plus. Voilà. Donc cet acteur, il va jouer Morpheus. On n'a pas vraiment de scénario. On sait qu'il y a certains personnages qui vont... Tu connais Neil Patrick Harris, ça te dit quelque chose?
Non, bah, les noms, moi j'ai du mal. Hein.
Donc lui aussi, il va être au casting. On n'a pas du tout d'indice sur ce que ça va donner, ce que ça va être. Il y a très peu d'infos, en fait, à part... on sait que c'est Lana Wachowski qui va le réaliser. Ça va être toujours produit par la Warner. La vraie question que je me pose, c'est pas qu'est-ce que la Matrice, c'est pourquoi faire revenir cette licence? Est-ce que c'est, encore une fois, quelque chose d'opportuniste?
Ah oui, c'est pour l'argent. Ouais. Je suis désolé, ça va faire effet Terminator.
C'est sûr.
Après, on peut avoir une bonne surprise. Mais je veux dire, quand t'as été surpris par de la fraîcheur comme ça, forcément, ce qu'on va te servir après, c'est du réchauffé. Enfin, je vois pas ce qu'il pourrait te remettre de neuf.
Bah, de toute façon, va falloir un scénario solide. Je doute pas qu'en scène spectaculaire, ça va le faire.
Mais ça peut pas sauver un film. Le spectacle seul ne sauvera pas un film.
Bah non, de toute façon, il y avait des scènes spectaculaires dans Matrix Reloaded et Revolutions, et c'est pas ça qui a sauvé le film. Hein. Je suis désolé. Il faut un vrai fond, il faut un vrai discours, il faut un vrai scénario. Bon, est-ce que je suis content de revoir Keanu Reeves reprendre le rôle de Neo? Je sais pas, il est pas un peu vieux pour ça, mais bon.
Bah, c'est avec l'effet John Wick, hein. Comme ouais. C'est John Wick, on fait un carton alors que c'était pas attendu. Voilà, ils se sont dit, bon, il y a peut-être un coup à jouer.
Ah, lui, il est quand même un petit peu revenu sur le devant de la scène avec ses films d'action. Je suis pas tellement emballé par ce quatrième épisode, quoi.
Ben ouais, un doute sur la fraîcheur. Ça va sentir le réchauffer, je pense. Donc, bon, bah, faudra voir. On peut avoir une bonne surprise, mais j'y crois pas spécialement plus que ça.
Puis bon, là, il y a aussi, ils vont faire un nouveau Robocop. Robocop Returns. On sait pas ce que c'est. Est-ce que ça va être une suite? Est-ce que ça va être un nouveau reboot? Parce qu'ils ont déjà fait un reboot. Je sais pas si tu l'avais vu,
j'ai vu le reboot. Hein,
2014, c'était... qui était quand même catastrophique.
Ouais, le meilleur film de 2014.
C'était vraiment mauvais, quoi, avec son armure en carton, là.
En plastique.
Ah ouais, elle était vraiment moche, cette armure. Et que sa moto, on aurait dit un jouet, tu sais, Hasbro.
C'était un Power Rangers.
Complètement. Mais le Robocop de Verhoeven, de toute façon, tu peux pas faire mieux, c'est pas possible. Mais voilà.
Tu peux plus faire mieux parce que. Non. C'était encore dans des années où tu pouvais te moquer des pauvres, machin, t'avais la classe.
Être cynique, ouais.
Tu pouvais être cynique. Maintenant, t'es obligé de donner de la profondeur à des personnages qui en méritent peut-être même pas. Mmh. Tu pourras
bien
plus faire.
Des personnages féminins.
Voilà, tu pourras plus faire un truc original parce qu'à l'époque, je veux dire, quand on te lançait un cliché dans un film, ça te choquait pas. Maintenant, t'as tous les extrémistes du coin qui vont
tomber dessus.
Qui te tombent dessus,
quoi.
Voilà.
Et tu te fais insulter, voire menacer de mort, quoi. C'est ça qui est ridicule, quoi.
Avant d'avoir vu une seule image du film.
En plus, ouais. Il y en a vraiment, ils sont vraiment dans la pollution du réseau social, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est là le gros problème. Bon, je pense qu'on a fait le tour et puis on a quand même essayé de faire le tour de cette trilogie qui est vraiment culte. Même si le 2 et le 3 sont inférieurs au premier.
Sont inférieurs, mais
ça reste quand même du grand spectacle.
On peut continuer à les regarder.
Par rapport à des boosts qu'on peut nous proposer ces derniers temps, c'est quand même d'un niveau inférieur au niveau réalisation, faut le dire. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais c'est sur ce bon mot que je vais conclure d'ailleurs.
Bienvenue dans le monde réel.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu.
Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître.
Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.